québécoises et francophones minoritaires se serrent les coudes. Un texte de Marianne Despelteaux, paru le 18 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto. La relation entre le Québec et les francophones en situation minoritaire profite d'un élan grâce à la nouvelle loi sur les langues officielles. Le déclin du français semble les rapprocher à l'échelle institutionnelle. Pendant longtemps, les droits linguistiques des francophones hors Québec et ceux des anglophones du Québec ont été traités de manière symétrique, provoquant une réaction de défense de la seule province qui craignait de voir le français menacé par l'avancée des droits pour les anglo-québécois. Le directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, FCFA, Alain Dupuis, rappelle que le Québec est déjà intervenu en Cour suprême dans des causes linguistiques pour défendre la protection de ses compétences provinciales, et ce, même au détriment des francophones du reste du pays. Je pense que la nouvelle loi nous aide et devrait changer le discours politique autour du français, déclare-t-il. Le responsable se réjouit de voir le principe d'asymétrie incorporé dans la nouvelle loi sur les langues officielles, modernisée en juin 2023. Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Jean-François Roberge, partage cet enthousiasme. Le fédéral et certains groupes mal intentionnés ne peuvent plus nous jouer les uns contre les autres. Ça va être durablement gagnant. Il rappelle qu'avant la modernisation de la loi, l'approche symétrique amenait de l'incompréhension et des prises de position malheureuses. Mais maintenant que le fédéral, sous l'impulsion de la FCFA, mais aussi du Québec, a changé sa perspective, qu'il reconnaît que, bien que majoritaire, le français est vulnérable au Québec, je pense que ça améliore nos solidarités, estime le ministre. Un combat similaire. Il ne faut pas segmenter la francophonie, avertit Alain Dupuis. Il faut aussi réfléchir comme francophone qui habite sur le territoire canadien comme un tout. Les identités sont multiples, mais cette solidarité-là et une connaissance accrue ne peuvent que nous bénéficier collectivement. Au Québec, comme dans le reste du Canada, le français perd de la vitesse. Même si le nombre de francophones augmente, leur poids démographique ne suit pas celui des anglophones et des allophones. Un rapprochement permettra aux partenaires de discuter des moyens, des outils qui vont nous permettre essentiellement de réduire, du moins, le déclin et éventuellement changer la tendance, estime le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, CFA, Sylvain Lavoie. Alain Dupuis considère que le Québec se réveille à la question du déclin et que la francophonie en situation minoritaire a de l'expertise à lui offrir, et vice-versa. Une présence au Québec. La FCFA tient un bureau à Québec depuis 1988. Dans les premières années, raconte Alain Dupuis, on voulait être dans la capitale québécoise pour régulièrement parler avec les ministères du Québec pour qu'on pense à nous et à l'importance de développer des initiatives pour la promotion de la langue française qui dépasse les frontières. Dans les trois dernières années, on a renforcé notre approche, dit-il. L'équipe compte deux personnes de plus et une nouvelle dynamique a vu le jour. Alain Dupuis l'attribue surtout au sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui a permis de réfléchir aux outils pour travailler davantage ensemble pour être solidaires sur la question de la promotion de la francophonie. Proactif. Le rapprochement ne date pas d'hier, fait remarquer Jean-François Roberge. On est très proactif au gouvernement du Québec. Ça a vraiment commencé avec ma prédécesseur, Sonia Lebel. Cette dernière a fait adopter la politique du Québec en matière de francophonie canadienne, de laquelle ont découlé la Journée québécoise de la francophonie canadienne et mobilisation franco. En mai 2024, des représentants d'une centaine d'organisations francophones hors Québec ont rejoint autant de vis-à-vis québécois à Montréal pour la troisième édition de l'événement Mobilisation franco. L'occasion d'échanger des idées et de créer des partenariats. Ces rencontres permettent aussi à la francophonie en situation minoritaire de se faire connaître, car, selon Alain Dupuis, il existe une méconnaissance de ces réalités au Québec. Réapprendre à se connaître. Est-ce que la majorité des Québécois connaissent la francophonie canadienne? Ont une connaissance fine de qui nous sommes? La réponse est non, affirme Alain Dupuis. Selon lui, il faut surmonter ce défi structurel par des initiatives grand public. Les partenariats entre organismes sont un départ, mais il faut aussi réfléchir à des initiatives dans le domaine de l'éducation afin de mieux enseigner l'histoire et la résilience de la francophonie canadienne, dit-il. Des curriculums à revoir? Dans une analyse de curriculum, Jennifer Wallner et Stéphanie Chouinard relèvent des différences entre ceux de l'Ontario et celui du Québec. Ce dernier présenterait un récit expressément dédié à la promotion d'un récit national particulier sur l'histoire de la province et du pays, les Québécois en tant que nation, et une orientation générale vers l'intérieur du sujet. L'information passe aussi par les médias, ajoute le directeur. Souvent, dans les médias québécois, lorsqu'on parle de la francophonie canadienne, on parle du déclin du français. On parle des défis de l'assimilation. Oui, l'assimilation existe. Oui, il faut toujours se battre pour vivre en français. Mais il y a aussi énormément de belles choses, de résilience, de bonnes pratiques et d'expertise qui se sont développées en francophonie canadienne et qui pourraient être utiles, souligne-t-il. Interpeller les Québécois. Jean-François Roberge reconnaît le défi que peut poser cette méconnaissance. C'est pour ça qu'on a créé en 2022 la Journée québécoise de la francophonie canadienne, rappelle-t-il. On a voulu interpeller les Québécois sur l'existence et la vitalité de la francophonie canadienne. Cette journée permet aux gens de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, ajoute-t-il. Autant aux Québécois qu'ils ne sont pas les seuls francophones au Canada, mais aussi que toutes les communautés comprennent qu'ils ont un allié important au Québec. Au départ, on devait réapprendre à se connaître, admet Sylvain Lavoie. Avec la troisième mobilisation franco, on a vu un grand engouement, tant du côté québécois que de la francophonie canadienne, de vouloir échanger. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, et quand je suis arrivée au Québec, j'ai découvert des gens passionnés, très intéressés d'en connaître davantage sur ce qui se passe en francophonie canadienne. Et je sens de plus en plus les gens de la francophonie canadienne qui souhaitent en apprendre plus sur ce qui se passe au Québec. C'était Québécoises et francophones minoritaires se serrent les coudes. Un texte de Marianne Despelteaux, paru le 18 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto.
D'amour et de sang. Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue. Pour l'édition de juin, j'avais envie de vous partager une suggestion cinéma. Un film à saveur lesbienne, bien sûr. au moment d'écrire ces lignes, il est présenté sur grand écran. Ainsi, il sera donc disponible sur les plateformes de streaming au moment où vous lirez ces lignes. Jason Loves Lies Bleeding. D'amour et de sang en version française, de Rose Glass. Du film, comme de sa mise en marché et de sa réception. L'histoire se déroule dans une ville rurale du Nouveau-Mexique à la fin des années 80. On y retrouve Lou, Kristen Stewart, une gérante d'un gym paumé qui semble blasé entre sa baisse du week-end et le débouchage des toilettes. Sans conteste, les premières images du film, au même titre que le look de Kristen Stewart, n'ont rien de glamour, bien qu'on reconnaisse les Reeboks rouges et les Kiwi Fuchsia mauves des années 80. Le gym est sale, comme la tenue et la chevelure de Lou. Néanmoins, son regard s'illumine lorsque Jackie, Kathy O'Brien, dans son premier grand rôle au cinéma, une ambitieuse culturiste de l'Oklahoma qui rêve de Vegas, vient s'entraîner au gym. Et pour cause, la première rencontre entre les deux femmes est marquante. Jackie frappe un monsieur musclé insistant qui vient d'insulter Lou, une gouine de catégorie A. Après s'être assuré que Jackie n'est pas uniquement le genre de fille straight qui ne veut qu'expérimenter, elle l'amène dans son lit. Puis, elles emménagent ensemble. Le cliché U-Haul, mais il faut dire que Jackie vivait dans la rue. Une forte relation se tisse entre les deux femmes. Lorsque leurs passés respectifs refont surface et que la violence externe vient menacer leur relation, les deux femmes sont rapidement entraînées dans une relation d'amour et de sang. En d'autres termes, une relation d'amour torturée, une relation lesbienne. Sans blague, d'amour et de sang a ce je ne sais quoi qui fait penser à la solidarité féminine de Thelma et Louise avec l'action et le côté suspense criminel et romantique de Bonnie and Clyde. Bref, Lou et Jackie s'inscrivent ici comme certains couples mythiques du cinéma qui se déchirent entre amour et haine, bousculés par les événements extérieurs, affichant sans vergogne une marginalité presque effrontée. C'est d'ailleurs cette marginalité effrontée. Lire ce lesbianisme affiché sans l'intermédiaire des clichés pornographiques hétérocentrés qui a fait réagir lors de sa mise en marché, voire la promotion connexe à la sortie du film. En ce sens, Kristen Stewart a fait la une du magazine Rolling Stone et ses photos ont beaucoup fait jaser. Regardant frontalement la caméra, elle arbore une veste en cuir noir sans manches, dévoilant la courbe de ses seins. Puis, sa main droite se retrouve dans sa culotte masculine de type jockstrap. Sa coupe mulet, typique des années 80, fait graisseuse et défraîchie, dépeignant l'endroit où elle se trouve, soit un gym, trahi par la présence des haltères à l'arrière-plan. À droite de la couverture du magazine figure la mention « Uncensored ». Vous vous en doutez, ce look butch, où elle évoque la masturbation, n'a pas fait l'unanimité. Certains ont dit que c'était stupéfiant, d'autres courageux. Au regard des médias sociaux, à lire la mecque des haters, les commentaires étaient peu élogieux. Je dirais même que j'en ai lu certains qui étaient sexistes et lesbophobes. Ils étaient écrits comme ça, tout bonnement, et une grande majorité acquiesçait. Par exemple, plusieurs disaient qu'une femme habillée de cette façon, look masculin au sortir du gym en sueur avec des cheveux gras, n'était pas sexy. Perso, je suis moins attiré par le look masculin, mais néanmoins, les commentaires me renvoyaient en pleine face une évidence. Le double standard. Un homme musclé qui s'entraîne au gym et qui sue, c'est hot, il travaille fort, puis a le droit d'avoir les cheveux sales de sueur, comme son chandail et son chest. Right? Mais une femme, Non. Elle doit suer en toute propreté, s'entraîner sans trop déplacer et humidifier ses cheveux et se muscler sans que ses muscles ne paraissent. Il y a effectivement un double standard. Finalement, on reprochait à Kristen Stewart, sur la couverture de ce magazine, de ne pas être assez féminine, de s'approprier une attitude masculine. C'est drôle, car les hommes qui ne sont pas assez masculins et qui s'approprient une attitude féminine sont applaudis et plus que vénérés dans les drag race et compagnie. Le fait que Kristen mette la main dans sa culotte et évoque la masturbation gêne, car une femme ne peut éprouver du plaisir sans passer par l'homme. Quoi? Depuis que le monde est monde, on assiste toujours au plaisir et à la masturbation masculine. Pouvons-nous changer de disque en 2024? Il est fort possible que la couverture du magazine ne soit pas attirante pour certaines personnes, ce qui est tout à fait compréhensible. Tous les goûts sont dans la nature, mais au final, c'est plutôt le fait qu'elle subvertisse les codes qui gênent les détracteurs. Et ces 10 codes ont toujours un double standard, renforcé par notre éducation dès notre plus jeune âge. Par exemple, le terme « cougar » est utilisé pour décrire une femme de plus de 40 ans qui sort avec un homme plus jeune. Quel est le terme pour décrire un homme qui sort avec une femme plus jeune? Puma. Gageons que vous n'aviez jamais entendu ce terme, sauf pour la marque de souliers, et pourtant, on ne manque pas d'exemples pour l'utiliser. Bref, la publicité associée à la mise en marché du film a beaucoup fait jaser. De passage au Festival du film de Berlin, alors que le film était nommé pour le Teddy Award, Stewart a réitéré sa fierté à faire cette couverture du magazine. L'existence d'un corps féminin vous imposant tout type de sexualité qui n'est pas conçue exclusivement pour les hommes hétérosexuels est quelque chose avec lequel les gens ne sont pas très à l'aise et j'en suis donc vraiment contente, a déclaré la jeune femme bisexuelle de 33 ans lors de la conférence de presse du festival selon The Hollywood Reporter. Sans conteste, Love's Lie Bleeding remet en question les stéréotypes de genre, les notions liées au corps féminin au sein d'une romance lesbienne à suspense. De toute évidence, le film de la réalisatrice britannique Rose Glass, qui nous avait préalablement offert le film d'horreur Saint Maud, acclamé par la critique, promet de toucher une corde sensible avec une Kristen Stewart plus qu'authentique, qui nous présente l'un des meilleurs rôles de sa carrière. C'était « D'amour et de sang », une chronique de Julie Vaillancourt, paru le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Quand le réchauffement refroidit, un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juillet 2024 dans la presse. Des tempêtes plus fortes, à cause des changements climatiques, pourraient refroidir brusquement certaines parties des océans. Cela provoque un carnage dans certaines mers australes. Et ce ne sont pas les seuls coups de froid marin qui constituent la menace. Requins, raies et calmars. En mars 2021, plus de 260 grands poissons et animaux marins se sont échoués en quelques jours sur des plages sud-africaines. L'événement a intrigué Nicolas Lubitz, spécialiste des requins de l'Université James Cook, en Australie. En avril 2024, dans la revue Nature Climate Change, M. Lubitz a montré que, contrairement aux mortalités massives habituellement liées à des vagues de chaleur océaniques, cet événement, et d'autres en Australie, est lié à un froid soudain et extrême. Ce coup de froid est aussi un résultat paradoxal du réchauffement de la planète. Les tempêtes plus fréquentes font remonter des eaux froides des profondeurs de deux courants de l'océan Indien qui déciment les grands poissons et mollusques habitués aux eaux chaudes de la surface. En 24 heures, en mars 2021, en Afrique du Sud, l'eau de surface a chuté de 11 degrés Celsius. En analysant 41 ans de température océanique et 33 ans de mesures de vent, M. Lubitz et ses collègues ont montré que le problème s'aggravera avec les changements climatiques. Nous montrons une augmentation de l'intensité et de la fréquence des remontées d'eau profonde, a-t-il expliqué sur le réseau social X. Saumon, un super refroidissement a eu lieu dans les dernières années à Terre-Neuve, en hiver, et a provoqué une mortalité excessive dans les fermes de saumon. Les espèces sauvages, elles, ne sont pas vulnérables dans les provinces atlantiques parce que l'eau y est déjà près de zéro l'hiver, selon Frédéric Cyr de Pêche et Océans Canada. Il survient parfois des remontées d'eau de profondeur où la température près de la surface chute rapidement, par exemple de 10 degrés Celsius à près de 0 degrés Celsius, mais j'imagine que l'écosystème est habitué car cela se passe régulièrement. Par contre, des espèces qui s'installent plus au nord à la faveur du réchauffement des eaux de surface, par exemple le merlu argenté et le requin blanc, pourraient souffrir de ces refroidissements soudains, selon M. Cyr. Gulf Stream. Un coup de froid encore plus extrême serait l'arrêt de la circulation méridienne de retournement atlantique, AMOC, selon l'acronyme anglais, un courant océanique dont fait partie le Gulf Stream. Ce courant amène de la chaleur vers l'Europe du Nord, ce qui explique que Lyon est beaucoup plus chaud que Montréal, bien qu'il soit à la même latitude. Au printemps, des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont affirmé dans Nature Climate Change qu'une fois passé un point de non-retour, l'AMOC s'effondrerait en moins de 100 ans. Et en juin 2024, ils ont publié sur le site de pré-publication scientifique ArxIV une étude concluant que ce point de non-retour serait atteint avant 2050. Les répercussions climatiques et sociétales de ce phénomène sont graves, affirme l'auteur principal des deux études, René van Westen, de l'Université d'Utrecht. Variations naturelles. Les études inquiétantes à propos de l'AMOC sont nombreuses depuis 20 ans, notamment à cause d'une zone au sud du Groenland, où l'océan se refroidit au lieu de se réchauffer comme partout ailleurs sur la planète. Mais l'automne dernier, dans un numéro spécial de la revue Philosophical Transactions et de la Société royale britannique, des océanographes et climatologues sceptiques ont riposté. Leur porte-étendard est Susan Lozier, océanographe de l'Université de technologie de Géorgie, Georgia Tech, et ex-présidente de l'Union géophysique américaine, AGU. On n'a que 20 ans de mesures directes de la force de l'AMOC, dit Mme Lozier en entrevue. Je pense qu'on sous-évalue la variabilité naturelle de l'AMOC. La complexité du débat repose sur la multiplicité des manières d'analyser la situation. Yuxin Zhu, océanographe de l'Université de Californie à Santa Barbara, a par exemple publié en mai dans la revue Science une étude concluant que la vitesse de fonte des glaciers et de la banquise arctique n'était pas assez rapide pour affecter l'AMOC en comparaison avec ce qui est survenu depuis 50 000 ans. Mais M. Zhu estime tout de même les résultats de M. Van Westen alarmants s'ils se confirment. La contribution canadienne. Frédéric Cyr, de Pêche et Océans, joue un rôle dans le débat sur l'AMOC. Je suis impliquée dans un groupe de recherche qui s'intéresse aux longues observations hydrographiques. À l'intérieur du groupe et de ce qu'on observe, il n'y a pas d'évidence claire d'un effondrement immédiat, même si cette possibilité ne peut pas être mise de côté. Il connaît les chercheurs d'Utrecht et les juge sérieux. Le groupe de travail sur l'hydrographie océanique, WGOH, auquel il participe, suit les conditions océanographiques de l'Atlantique Nord à partir de plusieurs réseaux de bouées de mesure. WGOH est un projet du Conseil international pour l'exploration des mers, ISSES, une ONG scientifique, établie à Copenhague. Il existe plusieurs réseaux de bouées océanographiques traversant l'Atlantique Nord. L'un d'entre eux va de l'Écosse au Labrador en passant par le Groenland, un autre de la Bretagne à Terre-Neuve et un troisième de l'Afrique de l'Ouest à la Floride. L'ABC de la Moque. L'eau du Gulf Stream est très salée à cause de l'évaporation dans les Caraïbes et donc plus lourde que le reste de l'eau de l'Atlantique Nord. Quand elle se refroidit, cette densité de l'eau salée n'est plus compensée par la chaleur. L'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Elle plonge donc dans les profondeurs de l'océan et commence un voyage vers le sud. Or, la fonte des glaces en Arctique amène énormément d'eau douce dans l'Atlantique Nord. L'eau du Gulf Stream est diluée par l'eau douce de l'Arctique. Elle ne plongera pas, ce qui affaiblira la pompe alimentant la Moque. En 2004, le film catastrophe The Day After Tomorrow décrivait une ère glaciaire paradoxalement causée par le réchauffement de la planète à cause d'un ralentissement de la Moque. En savoir plus, source, Nature Climate Change, 1 degré Celsius, augmentation moyenne de la température de surface des océans depuis 1900. 0,9 degré Celsius, diminution de la température de surface de la zone froide au sud du Groenland depuis 1900. C'était « Quand le réchauffement refroidit », un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juillet 2024, dans la presse.